Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Antoine Isambard, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez France-Chine, les liaisons dangereuses, un livre qui rend un peu parano parce que vous expliquez en clair que la Chine nous espionne quasiment en permanence et dans tous les domaines sensibles, à tel point, vous racontez qu'en février 2018, lors des vœux d'Emmanuel Macron à la communauté asiatique, on n'a pas invité les numéro 1 et numéro 2 de Huawei France à l'Élysée.
Oui, il y a une crainte depuis le milieu des années 2010 des services de l'État envers Huawei. Et effectivement, cette année-là, les numéros 1 et 2, Zhang Minggang et Wei Longxi, bah, la veille de l'événement, ont été interdits de participer aux cérémonies. Et plus globalement, il y a un dispositif d'État qui s'appelle Cerber, qui a été mis en œuvre, qui réunit plusieurs ministères, les services de renseignement, et qui lui est chargé, de manière hebdomadaire, d'étudier un petit peu l'état, on va dire, de la menace Huawei. Quelle entreprise Huawei est susceptible de racheter ou avec quelle entreprise elle est susceptible de nouer des partenariats. Et donc là, il y a une vraie vigilance, une vraie vigie en tout cas de l'État sur les activités, l'agissement de Huawei en France.
C'est ce fameux comité de pilotage dont vous parlez qui a été mis en place en 2015.
C'est ça.
C'est ça. Mais quand vous faites état d'une crainte, est-ce que c'est une crainte ou est-ce que c'est une réalité ?
Alors il y a deux choses. Il y a d'une part, on va dire, les craintes d'espionnage traditionnel, c'est-à-dire que beaucoup au sein de l'appareil d'État disent que Huawei, de la même manière que on a pu le découvrir durant l'affaire Snowden, dans des entreprises américaines avaient accès aux données, enfin les services américains avaient accès aux données qui transitaient par Cisco par exemple. Et donc là il y a une crainte de backdoor, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des failles
de dérobées.
Voilà, des failles de sécurité au sein des produits Huawei, lesquelles permettraient éventuellement à Pékin d'avoir accès à ces données. À ce jour, il y a eu des tests menés par les services de renseignement, notamment au Royaume-Uni, qui sont en pointe là-dessus, qui n'ont pas permis formellement de dire voilà, il y a des backdoors qui sont connectés, qui permettent aux services de renseignement chinois d'avoir accès.
On n'a pas trouvé la preuve.
On n'a pas de preuve formelle.
Et vous mentionnez l'irritation de la DGSI qui s'énerve un peu de la bienveillance, peut-on dire, de Cédric Villani vis-à-vis de Huawei. Alors ça, c'est assez étonnant, ça.
Bah, c'est le boulot des contre-espions français, c'est de toujours voir voilà quel diplomate, homme d'affaires, homme politique peut finalement faire le jeu d'un groupe étranger sur le sol français.
Alors faut expliquer, qu'est-ce qu'il fait Cédric Villani ?
Alors Cédric Villani, il avait été approché par Huawei il y a quelques années, il s'est occupé du programme en fait de start-up de Huawei, et en tant que président du fonds de dotation de l'Institut Poincaré qui reçoit des subventions de Huawei, voilà, les services au bout d'un moment ont dit Cédric Villani, il joue entre guillemets un jeu qui est pas juridiquement condamnable, mais entre guillemets il lisse l'image de Huawei en France. C'est vrai que ça agace beaucoup à Levallois, mais au sein de l'administration en général.
Alors il y a une info que vous donnez qui est assez étonnante. Vous référez un rapport secret qui date de juillet 2018 et vous dites que le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, le SGDN, s'inquiéterait du nombre de mariages croissants entre des militaires bretons et des jeunes chinoises.
Oui, voilà, c'est dans ce rapport-là, le SGDSN pointe notamment l'activisme du renseignement chinois en région Bretagne, qui est une région, un bastion traditionnel de la galaxie militaire française, et notamment à Brest, où nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sont basés à l'île Longue. Et donc, voilà, selon ce document, notamment des étudiantes chinoises de l'université de Bretagne occidentale à Brest approchent cette communauté militaire. Et cette note pointe également voilà, un nombre accru de mariages entre des Chinoises et des militaires français.
Mais c'est juste un constat qui du coup suscite des questions ou il y a des faits, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que certaines de ces Chinoises sont vraiment des espionnes ?
Ça, la note ne le dit pas. En tout cas, le fait qu'elle le pointe, on peut imaginer que voilà, il y a eu des cas qui
statistiquement, le nombre de mariages augmente vraiment.
Augmente, oui.
Alors dans ce contexte-là, vous vous posez la question des facilitateurs finalement des relations franco-chinoises avec les risques hein, que cela peut comporter et vous citez un certain nombre de personnalités. Alors on peut parler par exemple d'Emmanuel Le Nain que personne ne connaît en fait, mais dont le rôle effectivement pose question. Alors c'est qui Emmanuel Le Nain ?
Alors Emmanuel Le Nain c'est un ami d'Edouard Philippe, il a fait l'ENA avec lui, il a été conseiller diplomatique d'Edouard Philippe jusqu'à récemment puisque là il va être nommé ambassadeur en Inde. Et c'est quelqu'un, voilà, qui a fondé une fondation, la France China Foundation, qui voilà rassemble lors de grands dîners, de galas, on va dire la galaxie d'affaires franco-chinoise, et fait payer notamment entre 15 000 et 50 000 euros l'année à ces entreprises essentiellement françaises la participation à ces déjeuners. C'est quelqu'un qui, même s'il s'en défend, voilà, est considéré par un certain nombre de diplomates ou de fonctionnaires comme étant assez pro-chinois. Et c'est quelqu'un
mais
qui...
c'est pas interdit, ça.
C'est pas interdit, mais si vous voulez, il y a une galaxie, il y a beaucoup d'agents d'influence franco-chinois, et Emmanuel Le Nain n'est pas le seul, hein. On pourrait parler des anciens premiers ministres, Jean-Pierre Raffarin en tête, mais également Laurent Fabius, quand il a été Quai d'Orsay, était considéré comme quelqu'un qui était assez favorable, et il ne s'en cachait pas, aux Chinois, et notamment à Alibaba.
Alibaba qui est ce site mondial de vente en ligne, hein, cet énorme site.
Voilà. On a également Dominique de Villepin, qui a également œuvré et qui œuvre aujourd'hui, qui est un grand consultant international au profit de la Chine.
Je vais vous reposer la question, à quoi c'est un problème ?
Alors c'est un problème, si vous voulez, parce que c'est des personnes qui ont eu des postes très importants au sein de l'État, et aujourd'hui on peut être amené à se demander quel intérêt ils défendent. Est-ce que c'est l'intérêt des entreprises chinoises en France ? Est-ce que c'est l'intérêt des entreprises françaises en Chine ? Auquel cas, il n'est pas toujours évident de voir que c'est l'intérêt général qui est défendu, parce qu'on a bien vu que beaucoup de partenariats signés par des entreprises françaises en Chine débouchaient sur du partage technologique, et à terme ça détruit aussi de l'emploi en France.
Alors là, on n'est plus dans l'espionnage, mais vous signalez, hein, vous rappelez que la Chine investit un peu partout chez nous. Elle investit dans les transports, on l'a vu à Toulouse, d'ailleurs ça a été un fiasco à Toulouse. On se rend compte que des groupes chinois d'ailleurs se tirent aussi dans les pattes, hein, de temps en temps. Elle investit dans le tourisme, elle investit dans le foot, et puis vous parlez aussi des câbles sous-marins.
Oui, alors les câbles sous-marins, c'est un domaine extrêmement stratégique, d'autant plus en France qu'on a une véritable pépite qui est Alcatel Submarine Network, qui produit des câbles vendus dans le monde entier pour les GAFA, pour les opérateurs télécoms. Et ces câbles-là, par lesquels transite en fait toute l'information Internet, donc sont extrêmement stratégiques, et stratégiques notamment pour les services de renseignement, voilà, lesquels n'hésitent pas à se brancher au point d'atterrissage de ces câbles, donc au niveau terrestre, pour voilà collecter un certain nombre de données. Et c'est vrai que Alcatel Submarine Network a fait l'objet durant son histoire de beaucoup de marques d'intérêt de la part de la Chine.
Marques d'intérêt, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, par exemple, la filiale Alcatel Shanghai Bay, filiale chinoise d'Alcatel, a essayé à un moment donné de monter au capital et d'être majoritaire pour reprendre ASN. Et là, l'État français, pour le coup, a assez bien géré le dossier, parce que ça a été une vente qui a été bloquée au plus haut sommet de l'État. Alcatel Submarine Network est un opérateur d'importance vitale. Donc l'État veille vraiment extrêmement précisément là-dessus, et on a empêché ça.
Oui, parce que je disais, on n'est plus dans l'espionnage, mais là, on y revient. Hein.
Oui, on y revient.
C'est ça. Hein.
C'est ça. On est dans. C'est un petit peu comme Huawei. Huawei, on n'est pas dans de l'espionnage à proprement parler.
Mais on a
parler.
Des outils qui peuvent permettre.
Exactement.
De...
Voilà.
Ah, ok. Bah, merci pour toutes ces explications, Antoine Isambard. Alors, je précise que votre livre, France-Chine, les liaisons dangereuses, est édité chez Stock.